Nous poursuivons la lecture de l'Évangile selon Luc, qui nous est proposé cette année. Et nous en sommes au chapitre 14, les versets 1 à 14. Un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des dirigeants des pharisiens pour y prendre un repas. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus. Un homme souffrant d'œdème se tenait devant lui. Jésus prit la parole et demanda aux spécialistes des Écritures et aux pharisiens « Notre loi permet-elle ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne l'en retirera-t-il pas aussitôt, même le jour du sabbat ?» Ils furent incapables de répondre à cela. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Il leur dit alors une parabole. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne t'installe pas à la meilleure place. Il se pourrait en effet qu'une personne plus importante que toi ait été invitée et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, vienne te dire « laisse-lui la place ». Alors tu devrais, tout honteux, te mettre à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, installe-toi à la dernière place pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, rapproche-toi des meilleures places. » Ce sera pour toi une marque d'estime devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins. Car ils pourraient t'inviter à leur tour, et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles. Tu seras heureux car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait du bien ressusciteront. » Je vous ai relu la totalité de ces 14 versets, même si on nous indique aujourd'hui de ne prendre qu'une partie de ces versets. C'était plutôt pour vous donner un peu le contexte de ce repas particulier où Jésus est invité chez des pharisiens. Je m'attarderai plutôt sur la fin de ce passage. Dans la scène que Luc décrit vers la fin, Jésus est invité chez un chef des pharisiens. Alors, il faut rappeler qui sont les pharisiens et rappeler aussi que ce n'est pas la première fois, ni la dernière d'ailleurs, que Jésus rencontre des personnages de ce milieu. Il faut aussi rappeler que ce ne sont pas des adversaires farouches, spirituellement éloignés. Jésus est proche des pharisiens. Dans le judaïsme tardif de cette époque-là, Jésus est assez proche d'eux finalement. Et des scribes aussi, même si il lui arrive de les traiter d'hypocrites ou de les montrer du doigt, de pointer leur formalisme ou leur étroitesse d'esprit, etc., etc. Les points communs entre Jésus et les pharisiens sont très importants. Ce ne sont pas des petites choses comme ça, très, très marginales, très latérales. C'est vraiment du dur, comme on dit. Les Sadducéens, qui sont la caste des prêtres liés au temple de Jérusalem, sont attachés en général plutôt au livre de Moïse, à la Torah seule, presque exclusivement, et au caractère rituel et sacrificiel de l'Israël ancien. Alors que Jésus et les pharisiens, les scribes, eux, ont intégré depuis un bon moment déjà, dans leurs enseignements respectifs, leurs valeurs, leurs pratiques, les valeurs sociales et éthiques du discours prophétique, ainsi que la foi en la résurrection, que les Sadducéens ne partagent pas non plus. Quand il y a une confrontation donc, entre Jésus et les pharisiens, il ne faut pas y voir un ancêtre de la querelle entre les anciens et les modernes. C'est déjà un débat entre modernes. Et à table ce jour-là, il y a surtout bien d'autres différences que des différences théologiques qui rentrent en ligne de compte, notamment les différences sociales entre le milieu de Jésus et celui des notables qui l'accueillent. Importante, cette différence. Entre eux, il y a tout l'écart entre un petit chef d'une bande de prêcheurs itinérants, un peu loqueteux, un peu débraillé, et des chefs religieux bien logés, bien habillés et qui ont les moyens d'inviter du monde. Il y a toute la différence entre les deux, et certainement, bon, je n'ai pas l'image à vous proposer, mais si on était assis à table avec eux, je suis sûr que ça se verrait. Et puis, il y a aussi les regards en coin que doivent sûrement se jeter les différentes factions présentes qui ont des avis assez divergents, parfois sur des points de détail, mais ça suffit pour être très fâchés, et qui ont parfois du mal à se supporter. Si vous vous figurez cette grande tablée, vous avez tous les ingrédients d'une belle querelle autour de la question « Alors, qui est le plus grand ici ?» Si on était assis avec eux, on sentirait, on verrait tout de suite que ça va se pousser du col. C'est dans cette ambiance un peu étrange que Jésus se retrouve coincé et qu'il leur raconte ces deux paraboles. La première invite à choisir les dernières places plutôt que les premières. Modestie, hein, ne t'assieds pas tout de suite aux meilleures places. La seconde exhorte l'hôte, hein, celui qui est le maître de maison, l'organisateur du repas, à inviter à son festin ceux qui ne peuvent rien rendre en retour, les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. Mais dans les deux cas, ces paraboles prennent de front le besoin de préséance, le sentiment de supériorité et l'entre-soi, bien visible de la plupart des convives. Ils ne sont pas là pour penser à d'autres qu'eux-mêmes, c'est évident. Ces deux paraboles jettent sur la table, au beau milieu des assiettes et des couverts, l'opposition radicale entre l'éthique du royaume, celle que Jésus entend recommander, dans cette parabole ici racontée par Luc et dans bien d'autres, et les valeurs mondaines qu'on retrouve partout ailleurs. L'avantage d'une présentation aussi tranchée, c'est ça qui est bien dans les paraboles, c'est qu'on vous présente les choses de manière nette. Dans la réalité, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais l'avantage d'une présentation tranchée comme ça, c'est évidemment la clarté. Le monde tel qu'il est, d'un côté, le monde tel qu'il devrait être, de l'autre côté. On y voit clair. L'inconvénient, qu'on sent pointer assez vite, c'est l'embarras du comment. Comment passer du monde réel qui est régi par le mondain, on s'y reconnaît bien sûr, on le voit partout, à un monde réorienté selon l'éthique du royaume, et dont on sait que ce royaume est au mieux exotique. On ne l'a pas vu beaucoup, en tout cas pas de manière éclatante, au pire improbable, et qu'il le restera en plus. Je veux dire que le royaume dont Jésus parle sera toujours une espèce de proposition fragile, de subversion du monde, sans perspective sérieuse, faute de moyens sans doute, de le transformer radicalement du pôle nord au pôle sud, mais tout de même avec l'espérance de le manifester à de nombreux endroits envers et contre le monde pour laisser quelques traces bien durables qui sont nos raisons d'espérer. Les deux enseignements de ces paraboles, apparemment distincts, s'articulent autour d'une même idée finalement, le renversement des valeurs mondaines par le royaume de Dieu. Jésus ne propose pas seulement une sorte de règle de bienséance sociale pour faire un peu plus de place à ceux qui ont moins les moyens, ou un simple code moral, même si ça pourrait déjà changer un certain nombre de choses. Il révèle une logique nouvelle qui doit se décliner sous 100 ou 1000 formes et s'étendre partout. Une autre manière de penser et d'agir, par l'humilité et le don gratuit, plutôt que par l'action sempiternelle de ces personnages qui se poussent du col. Le malheur de ce monde n'est pas dans l'impossibilité du royaume, puisque nous savons qu'il est possible. Nous savons bien qu'il est fécond dès qu'on s'en donne la peine. Donc il ne s'agit pas de trancher ici s'il est possible ou pas. Nous savons que oui. Mais le malheur du monde est plutôt dans la modestie des moyens employés pour le réaliser. C'est toujours aux loqueteux et aux débraillés qu'on confie, ceux qui n'ont pas de moyens, si vous voulez, ne vous sentez pas visé comme ça tout de suite, qu'on confie le soin de s'occuper de faire de belles et bonnes choses dans la gratuité pendant que les autres s'occupent des affaires sérieuses qui rapportent gros. Heureusement, pour nous et aussi pour eux, il y a les traces durables. Ces pratiques qui ont fini par devenir des institutions solides et qui, par temps de crise, sont, on le sait aussi, une bonne partie de ce qui tient encore. Que faire des trois appels qui nous sont adressés dans ce texte ? L'humilité, se situer dans une certaine forme de vérité. Le désintéressement, vivre et aimer gratuitement. Et la résurrection des justes, c'est-à-dire peut-être initier les semailles sans être certain de participer à la moisson, objectif fort lointain. Que faire de ces trois appels ? Jésus observe les invités qui se pressent pour occuper les premières places. Il a l'œil. La scène est familière, on le sait, chacun veut être vu, reconnu, honoré. On n'est pas venu comme un loqueteux et un débraillé, on a mis ce qu'on avait de plus beau, de plus brillant. L'instinct humain recherche la gloire, le prestige et la supériorité. Tous les invités, ou presque, sont là pour ça. Mais Jésus réplique à ce besoin par un effort. C'est un petit peu comme quand vous imposez des raisonnements à quelqu'un qui a quelque chose qui sort des tripes. Ce n'est pas sûr qu'on s'entende tout de suite, parce que ce n'est pas au même niveau. Il répond à un besoin, une espèce de tendance comme ça, naturelle, par un travail et un effort. Il demande de faire taire une pente naturelle pour la remplacer ou la combattre par un travail qui n'est pas toujours spontané. Quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Eux viennent de faire exactement le contraire. Et loin d'être une simple stratégie pour éviter la honte d'être déplacé, parce que, heureusement, dans ce cas-là, personne n'a dû changer de place, cette parole dévoile l'essence de l'humilité qu'on attend de nous. Ce n'est pas une humiliation, ni une dépréciation de soi. Ça aussi, le christianisme en a fait, et d'autres religions aussi en ont fait leur chou gras. Humilité, humilité, plus bas que terre, etc., etc. L'humilité, ce n'est pas l'humiliation ou la dépréciation de soi, c'est se rappeler qui on est et à quelle hauteur on est et d'où on parle. C'est la juste reconnaissance de la vérité de notre personne. Rien de plus, mais rien de moins. Elle consiste à se tenir à sa place devant Dieu, c'est-à-dire non pas une pauvre créature humiliée par sa dépendance, hein, même si de nombreux discours théologiques ou d'église nous y ont poussé longtemps, mais plutôt être un gracier permanent et le savoir une bonne fois. Conscient du chemin à parcourir, c'est ce que nous faisons en nous asseyant, comme tout à l'heure, reconnaissant d'être pourtant à table avec les autres, indépendamment de toute question de mérite ou de prestige, et aussi, parce que c'est la suite qui nous attend, être soucieux de faire de la place à cette même table, aux recalés qui attendent encore devant la porte. N'est-ce pas ce que nous essayons de faire, nous, en Église, dans toutes ses composantes, nos rassemblements, nos témoignages, nos actions, ce que nous faisons pour nous rappeler pourquoi nous sommes là et l'annoncer au dehors, dans notre témoignage en parole et en geste, n'est-ce pas ce que nous essayons de faire ? Finalement, nous pourrions ou devrions peut-être appeler notre temple une salle du royaume. Dommage, c'est déjà pris. Plus important, un effort supplémentaire nous est recommandé, c'est celui du désintéressement, comme si l'humilité ne suffisait pas. Une couche supplémentaire, non pas d'abaissement ici, mais de désintéressement, c'est-à-dire une autre façon de regarder les autres et ce que l'on fait pour soi et pour les autres. Une réorientation, donc pas un abaissement. Quand on pense à tous les contrats qui ont permis de faire société en Europe depuis au moins 300 ans, on sait que ça ne tourne pas principalement autour du désintéressement pur. Ce n'est pas comme ça qu'on a fabriqué nos sociétés. Ce sont des compromis entre puissances qui cherchent à s'équilibrer entre elles qui ont pris la place. C'est déjà pas mal. Mais peut-être qu'au milieu de cet équilibre, les fameuses traces durables ont fini par apparaître, se faire une place et se rappeler de temps en temps à notre bon souvenir comme la fraternité de notre triptyque républicain, par exemple, qui renvoie non pas à une abstraction avec sa belle majuscule, hein, ce qui est souvent comprise comme ça, mais qui renvoie à un type de relation où l'autre n'est pas forcément un ennemi à vaincre ou un concurrent à plumer ou à dépasser, mais plutôt un partenaire avec qui on construit, on entretient un bien commun. C'est certainement ce qui permettrait de faire régner dans notre société une autre ambiance que celle qui se trouve autour de la table là, où chacun doit avoir un couteau bien aiguisé à la ceinture au cas où. Sous la nappe, ça ne se voit pas, hein. On est quand même invité, mais la lame est prête. C'est le contraire que Jésus recommande à son hôte. Vous savez, la règle des invitations est bien connue, hein. À la fin du repas, quand la soirée est terminée, on se lève et sur le seuil de la porte, il est de bon ton de dire « la prochaine fois, c'est chez nous ». Mais le vrai désintéressement comme témoignage actif et fécond, c'est de faire venir à table des gens qui ne pourront pas rendre l'invitation parce qu'ils n'ont pas assez de place chez eux, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour offrir un festin pareil, parce que chez eux, s'il y a un peu de place, c'est un peu miséreux, ou parce qu'ils habitent un quartier où les grosses voitures de leurs invités risqueraient de ne plus être là à la fin de la soirée, etc., etc. On ne peut pas rendre l'invitation. C'est sans doute vrai que l'invitation n'est pas forcément rendue. Mais au moins, celui qui avait de quoi ouvrir sa porte l'a fait, lui, et au bon moment, parce qu'il avait assez. Ce sont ceux qui sont attablés, alors ce jour-là, qui sont aussi, tous, même s'ils ne le savent pas, des graciés permanents. Voilà pourquoi Jésus conclut « Tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Je ne sais pas si cet homme a compris et accepté cette phrase tout de suite. Le texte ne le dit pas, mais on peut imaginer qu'il lui a fallu un moment pour se demander si son invité ne se fichait pas de lui ou s'il ne lui disait pas en forme de boutade ou de plaisanterie, présentait ce programme impossible, c'est cet objectif inaccessible pour se moquer de lui. À la résurrection des justes, cela te sera rendu. Ça non plus, même comme pharisien qui adhérait à la résurrection, une résurrection qui lui promet de lui rendre ce qu'il possède déjà, ça n'a pas dû être évident pour lui. Qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans, même si j'y crois finalement? Que penser de cette résurrection des justes? Nous avons tous une compréhension personnelle de ces mots de la Bible un peu valise, vous savez, comme paradis, ciel, royaume, résurrection, béatitude, il y en a beaucoup comme ça. Je ne peux pas vous imposer quoi que ce soit, je m'en garderai bien, et vous ferez bien ce que vous voudrez de ce que vous allez entendre, mais la résurrection dans cette parabole, comme dans les textes de Pâques au fond, n'indique pas pour le lecteur, il me semble, un plus tard ou un ailleurs, indiscernable, toujours ailleurs, toujours plus loin. La résurrection promise est dans un ici et maintenant ou dans un bientôt, si tu le veux bien. Un acte juste, une parole juste, comme dans la parabole du bon samaritain où cet homme est littéralement remis debout, ressuscité par quelqu'un qui a bien voulu s'arrêter. Et ses conséquences sont toujours un changement ou une conversion de notre manière de comprendre et de vivre. C'est ça, la résurrection. C'est un peu gonflé de la part de Jésus de dire « tu seras heureux si jamais tu consens à perdre tout ce qui te fait être aujourd'hui comme tu l'es ». C'est un peu rosse de prendre quelqu'un de front comme ça, mais le bonheur évoqué par Jésus ne se mesure pas à l'estime qu'avaient autour de la table tous ces gens qui se regardaient pourtant en se détestant et en se jalousant, ni aux avantages d'un égoïsme bien compris. Ce n'est pas à cela que ça se mesure. La véritable récompense, finalement, est dans la possibilité d'intégrer dans ce que nous faisons au quotidien cette éthique du royaume, changer sa vie en décalant ses propres intérêts. Quand nous y parvenons, et ça nous arrive, hein, faut pas désespérer, notre monde tient mieux parce que nous avons retissé ou raccourci des distances. Nous avons fait exister quelque chose qui était en train de se déliter ou de se perdre, ou de devenir froid. Et quand nous échouons, quand le courage nous manque, eh bien, les couteaux ressortent de sous la table. C'est comme ça. On ne peut pas ressusciter à chaque fois. Amen.